Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission mercredi, cœur de la semaine de relâche. Par ailleurs, moi, ma dernière journée avant de m'en aller en congé avec mes enfants, c'est Vincent Desiroux qui va prendre la relève de l'émission demain et vendredi. J'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec les flots hein, au nombre de 5 enfants j'ai. Hein, pas tous à moi, bien évidemment, mais quand ça s'additionne, ça commence à faire beaucoup. Puis là, je veux pas faire une plug, mais je vais en faire une quand même. Sachez que j'ai payé tout ça avec mon argent, là, mais ma cabane à la maison, qui est une initiative qui a été mise sur place pour encourager nos producteurs d'érable, je me suis commandé un repas. Ça fonctionne super bien. Tu vas chercher ça dans l'épicerie de ton choix près de chez vous. Puis il y a vraiment des belles affaires pour vrai. Là. C'est pas des trucs un peu boboches. Là, tu peux avoir des repas gastronomiques. Tu peux commander des extras. En tout cas, personnellement, je trouve que ça faisait une superbe activité à faire avec les enfants. Comme on peut pas tellement se déplacer, là, ça va venir un peu briser la routine. Parce que c'est vrai que, puis je voyais les parents autour de moi se questionner, là, rendu à mercredi, ils ont un peu fait le tour. Les parents montréalais, sans dire. Hein, parce que, bon, après avoir été glissé, après avoir été patiné, après avoir été peut-être au cinéma, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben rien. Puis c'est bien correct, puis c'est bien OK comme ça. Moi, je vais essayer d'être zen avec mon rien faire. Je pense que quand je vais vous revenir lundi, je vais avoir été bien à bout, puis je vais avoir hâte de vous retrouver. Mais voilà, on va vivre ça ensemble et on va passer au travail des choses vraiment pires que ça dans la vie. On surveille évidemment ce point de presse aux alentours de 17h. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer au sortir de cette semaine de relâche, justement, donc compter du 8 mars? Est-ce qu'il y aura des assouplissements sanitaires, des régions qui demandent de changer de couleur? Là, il y a des régions où les cas sont à la baisse. Je pense entre autres à Chaudière-Appalaches. On voudrait bien voir abaisser les mesures sanitaires. Je ne sais pas si ça va se faire. Là, hier, quand même, Christian Dubé a commencé à mettre la table en parlant des variants. Je pense pas qu'on doit s'attendre à un grand assouplissement. Est-ce que la question de garder les écoles fermées leur a effleuré l'esprit dans la région de Montréal? J'imagine bien que oui. Même si on commence, on continue à avoir des cas quand même relativement bas. Relativement, c'est le mot important de ma phrase. 729 nouveaux cas aujourd'hui, malheureusement 19 décès. Puis je vais en parler avec notre prochaine invité des cas parce qu'on nous l'a bien dit hier, il y a deux courbes et c'est la deuxième qu'il faut surveiller. Benoît Barbeau est là, virologue, professeur des sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, bonjour.
Bonjour, Mme la présidente.
Bon, on a parlé hier beaucoup de la montée des variants, notamment dans la région de Montréal, durant le point de presse. On a parlé du début de la vaccination de masse. Puis là, ben, on essaie d'anticiper un peu ce que le gouvernement va nous annoncer à 17h. On va diffuser par ailleurs ce point de presse à Cube Radio. Mais comme à chaque fois qu'on fait des annonces à 17h, ça concerne les mesures sanitaires, ça concerne des décisions par rapport à ces mesures sanitaires. Et là, M. Barbeau, comme je le disais, on a mis la table un peu hier. On a prévenu les gens que des décisions seraient prises au regard de la situation actuelle par rapport aux variants. Je veux qu'on se parle des courbes. Christian Dubé hier parlait de deux courbes. Quand on regarde la courbe numéro 1, là, celle du virus original, ça va bien. On est en dessous de la barre des 1000. On a l'air d'avoir repris le contrôle. Mais ce qu'il nous disait, M. Dubé, hier, c'est que c'était un leurre. Il y a la deuxième courbe, celle du variant, et c'est celle-là qui inquiète. Là.
Oui, tout à fait. En fait, bien que les nouvelles sont bonnes au niveau du nombre de cas, de nouveaux cas par jour, de nouveaux cas d'infection par jour, on a vu un peu ce qui s'est passé dans les autres pays, particulièrement en Europe. Les variants peuvent vraiment nous causer une situation problématique. En d'autres mots, ils sont sous-jacents en ce moment au nombre de cas d'infection, mais lorsque eux vont prendre plus d'importance, et c'est déjà d'y commencer, on parle d'au-dessus de 10% des cas, nouveaux cas d'infection, eh bien, ils pourraient non seulement, évidemment, devenir encore plus prévalents, mais augmenter ce taux d'infection et ce taux de transmission. Alors, on le sait qu'ils sont plus transmissibles, et c'est vraiment cet élément-là qui est le plus inquiétant, qui est vraiment sur lequel le gouvernement met beaucoup d'attention présentement.
Bon, et cette courbe du variant britannique, d'ailleurs, il y a des pays qui ont fait des sorties pour commencer à dire ça serait peut-être le fun qu'on arrête d'associer des variants des pays. C'est comme si ça stigmatisait.
Oui, en effet, c'est un petit peu trompeur, en effet. Puis au contraire, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que celui du Royaume-Uni, c'est parce que le Royaume-Uni est beaucoup plus efficace, beaucoup plus agressif dans leur dans leur taux de séquençage. Donc, c'est même c'est grâce à eux qu'on entend parler de ce variant. Et puis, vous avez tout à fait raison, c'est un variant, mais qui est rendu maintenant à travers la planète. Puis, il faut quand même arrêter peut-être de l'associer à un pays et trouver une nouvelle formulation pour l'identifier. Ça serait, je pense, un bon moment.
Ben oui, vous avez complètement raison, Monsieur Barbeau. Et là, on nous dit qu'on crible les cas dans la région de Montréal, là, tous les cas positifs. On était à 8 à 10 % des cas positifs criblés la semaine passée qui relevaient de ce fameux variant. Cette semaine, on est rendu dans l'ordre des 12 à 15 %. C'est une augmentation quand même considérable en science. Ça dit quoi?
Ben c'est très appréciable. Ça démontre justement que lorsque vous êtes face à un virus qui... On parle d'une augmentation de transmission, plutôt une transmission accrue par rapport à l'autre virus qui circule ou les autres variantes qui circulent. On parle d'une augmentation entre 30 et 70, 80 %. Ça semble pas être énorme, mais au niveau épidémiologie, lorsque vous avez un virus qui se transmet ainsi, eh bien, vous pouvez justement arriver à une situation s'il y a perd le contrôle à une croissance, une augmentation de cas qui est exponentielle. Et c'est vraiment là qui est la clé. On vaccine, mais pour que les vaccins continuent de bien fonctionner, que ce roulement continue à bien fonctionner, il faut limiter les cas d'infection. Puis on a réussi quand même à le faire. Mais les variants, eux, ont vraiment des propriétés qui leur permettent de contrecarrer tous nos plans et donc de se transmettre encore plus activement. Puis là, on parle d'un variant, celui, en guillemets, du Royaume-Uni, mais il y en a d'autres là, en ce moment qui commencent aussi à prendre l'espace. On parle de celui, entre autres, de l'Afrique du Sud. Mm. Et là, en plus de ses propriétés de transmission accrue, mais là, vous commencez, et ça, on en parle depuis un certain temps, d'avoir des propriétés qui les rendent un peu moins facilement neutralisables chez les personnes vaccinées. Alors, ça ouvre une réalité tout à fait différente qui fait en sorte que votre vaccin et vos formulations vaccinales sont basées sur le premier virus initialement qui a été responsable une des séquences virales qui était responsable pour la pandémie, eh bien, pourrait éventuellement avoir plus de difficultés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les entreprises déjà se mobilisent pour arriver avec des nouvelles versions de leur vaccin qui seraient plus adaptées aux variants. Alors, le problème des variants est autre que tout simplement au niveau de transmission. C'est important, mais il y a tout cet aspect-là au niveau des vaccins qu'il faut prendre en considération.
Ben oui, parlons-en des vaccins, M. Barbeau, parce que, bon, je pense qu'on a vraiment placé notre espoir dans le début de cette vaccination de masse. On s'est dit, bon, on va pas se faire de cachette. La solution, c'est le vaccin. Il faut que le plus de personnes possibles soient vaccinées pour avoir ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais les données qu'on a à venir jusqu'à maintenant, les experts disent, écoutez, là, les variants vont prendre le dessus avant que les bénéfices de la vaccination soient substantiels.
Oui, certainement. Écoutez, on voit un peu les projections. On parle de mars, avril, avec un début d'augmentation du cas qui pourrait être vertigineuse. Et puis, c'est certain qu'on sera rendu à un pourcentage de vaccination qui ne sera pas proche de 50 % aucunement en avril. Et puis, tout ça en cause aussi du fait qu'on... Je pense qu'il y a eu des lacunes au niveau des approvisionnements des vaccins au niveau du Canada, qui nous a touché évidemment au Québec, ce qui fait en sorte que oui, nous, en ce moment, on c'est certain que les variants, en tout cas, du moins notre campagne vaccinale ne sera pas rendue proche d'une unité collective, de sorte que les variants seront possiblement auront moins d'impact sur notre système de santé et sur évidemment les personnes vulnérables.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on va être dans le chenoute tantôt?
Non, ce qu'on dit, mais écoutez, ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est que n'empêche que les vaccins en ce moment, ils sont bons, donc la distribution est très active, mais peu importe la situation dans laquelle on était, on doit continuer d'appliquer les mesures. Alors, si, vous savez, on aurait pu faire 20-30 % de la population québécoise qui aurait reçu le vaccin, néanmoins, on devrait quand même appliquer les mesures qu'on nous impose en ce moment. Et c'est tout simplement la réalité actuelle. Sauf que d'ici les prochains mois, lorsque le pourcentage de personnes qui auraient reçu le vaccin sera plus élevé, eh bien, on va être quand même dans une situation qui pourrait être quand même favorable, mais en autant qu'on prenne les mesures nécessaires pour limiter la transmission du virus et plus particulièrement les variants. Alors, on pourrait dire la victoire, mais on n'en a pas encore gagné. Mais n'empêche qu'on a les éléments, les outils et les décisions et les mesures pour nous faire en sorte qu'on sera quand même on aura, j'espère, comme je dis toujours, un été qui va être beaucoup plus favorable que l'été 2020.
Bon, au regard de ce qu'on vient de se dire pour ce point de presse qui arrive vers 17h, est-ce que ce serait sécuritaire d'abaisser le code de couleur de certaines régions, même celles où on a peu de cas actifs?
Moi, c'est là peut-être que je serais moins populaire.
Ah, mais ça, c'est pas grave. Le concours de popularité, là, on n'est plus là.
Non, je sais, mais en ce moment, du moins, je comprends qu'il y a des régions qui font mieux que d'autres. Les cas semblent être très faibles. On n'a pas nécessairement de variants dans certaines régions. En ce moment, la situation demeure fragile et le gouvernement est au courant. Il le savait dès le début de l'année. Et puis, je peux vous dire que tous ces criblages, tous ces séquençages-là, que cette augmentation de séquençage aurait dû être faite bien avant. La situation est telle, en ce moment, on vit un peu avec ce qu'on a, qu'on devrait prendre les précautions nécessaires pour éviter que les variants se mettent à se reproduire, à se transmettre trop au niveau de la population générale québécoise. Et puis, en ce moment, on a déjà eu des allègements, et je crois que le gouvernement, en tout cas, on verra ce qu'ils vont dire, devrait garder les mesures actuelles telles qu'elles sont.
Moi, je pense pas qu'ils vont changer de code de couleur. Ils nous ont mis un peu la tablière.
Exactement, c'est ce que je me dis. Je crois que c'est la bonne. Mais ils devraient sûrement, en tout cas, je ne sais pas à quel point que ça sera dans ce qui va être mentionné, donc dans la point de presse, mais je crois que d'être plus agressif au niveau des détections dans les établissements scolaires.
Là, M. Barbeau, là, vous m'amenez là exactement, je voulais aller. Puis là, c'est moi qui ne sera pas populaire. Moi, je pense que ça aurait peut-être été une bonne chose d'un point de vue épidémiologique seulement de peut-être prolonger la fermeture des écoles au-delà de la semaine de relâche dans la région de Montréal.
C'est certain qu'en effet, ça aurait été une possibilité. Le fait qu'ils ont été ouverts quand même, ça donnait justement espoir. Mais là, de retourner en arrière, c'est toujours une décision qui est très ardue.
Alors, on voit la situation là dans les écoles, c'est un vecteur de contamination.
Ce qu'on voit, c'est qu'on voit les variants qui sont plus présents. Puis en effet, vous savez, c'est sûr que lorsque vous avez des gens qui se rencontrent, qui sont un à côté de l'autre, donc un contact personne à personne, les virus vont être transmis. La décision gouvernementale était en fonction du fait que les enfants étaient moins susceptibles à la maladie et puis que possiblement étaient des moins contagieux. Et ça se peut en effet que c'est le cas, mais néanmoins, s'il y a un endroit où que le virus peut se transmettre, on peut avoir des éclosions, c'est justement les établissements scolaires. Le gouvernement devra en effet nous arriver avec un plan de match, nous dire est-ce que les établissements scolaires, on les ferme tous ou on continue d'être agressif envers les établissements qui démontrent la présence de variants et eux, on
fait des tests rapides puis toute l'équipe.
Exactement. Donc, si vous voulez les garder ouverts, alors vous devriez mettre plus d'accent sur les tests rapides. Vous assurez qu'il y ait un suivi et une meilleure connaissance des cas d'infection à travers le plus grand nombre d'établissements scolaires, plus particulièrement les points chauds. Parce que justement, ce qui arrive, c'est que vous laissez les établissements scolaires ouverts et vous laissez les enfants, en effet, et il y a des avantages, on comprend justement la logique.
Oui, personne ne veut que les écoles ferment, moi la première.
Donc, il y a des enseignants, vous avez des personnes, évidemment, des adultes qui travaillent là et par la suite, les enfants retournent évidemment à la résidence.
Vaccinons les enseignants, les éducatrices, les parents.
Les parents, c'est sûr, vous savez, au niveau de la campagne vaccinale, il faut y aller aussi selon une certaine logique et une certaine... Donc, ils vont au niveau des transgenres parce que c'est eux qui sont les plus sujets, justement, à développer des symptômes sévères. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va... Mais au niveau des établissements scolaires, si vous voulez les garder ouverts, c'est louable, évidemment, vous devez vous assurer d'avoir un suivi, une genre de test, une série de tests avec tous les tests rapides actuellement qui sont disponibles pour s'assurer que dans les établissements, comme je dis, qu'il y a des régions qui sont plus sujets à ce qu'il y ait des transmissions du virus, qu'on sache un peu à quoi s'en tenir et qu'on évite des éclosions qui pourraient générer, qui alimenteraient la transmission des variants.
Bon, on va voir ce que l'avenir nous réserve. Aux alentours de 17 heures, on s'est amusé avec les Nostradamus de la COVID-19. On verra si nos prédictions s'avèrent ou pas. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue et prof en sciences biologiques à l'UQAM.